Alors, on me pose quelques questions, je vais tout de suite y répondre. Qu'est-ce que la passion au sens métaphysique, logique, les catégories morale, psychologique, philosophie du vivant? C'est extraordinaire, alors, de regarder les passions sous tous ces aspects-là. On va préciser rapidement. Hein. Bon, nous nous plaçons en philosophie du vivant. Ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui caractérise la philosophie du vivant? Il faut toujours se rappeler la ratio formalis objecti, hein, au point de vue scolastique. Hein. Retenez au moins la formule, et vous voulez mettre quelque chose derrière. Ratio formalis objecti. La raison formelle de l'objet. La ratio formalis objecti, c'est-à-dire ce qui détermine l'intelligence et qui permet à l'intelligence de regarder telle réalité sous tel ou tel aspect. Je peux regarder la même réalité du point de vue métaphysique. Au point de vue métaphysique, vous êtes des étangs magnifiques. Vous êtes des réalités qui existent au point de vue métaphysique. Homme, réalité particulière. Au point de vue philosophique du vivant, je regarde en vous la source de la vie. Cette source de la vie se manifeste à travers les opérations vitales. Voilà ce qu'on regarde la philosophie du vivant. On regarde les opérations vitales. On regarde ce qu'il y a de particulier dans les opérations vitales, le sémovere. On se meut. C'est ça qui caractérise le vivant. Alors, vous voyez tout de suite, si je suis dans cette raison formelle de l'objet, et la raison formelle de l'objet se distingue de ce qu'on appelle l'objet matériel, très mauvais comme expression, vous n'avez rien, elle existe. Qu'on appellera la materia circorporum. Hein. Je vous donne ces termes scolastiques pour que quand vous... Il faut les connaître, il faut connaître ces choses-là, il faut comprendre que nous ne les envoyons pas beaucoup exprès. Mais il faut savoir que c'est vrai, ça y est. Donc l'objet matériel, s'appellera la materia circorporum. La scolastique, c'est écrit en latin. Il ne faut pas l'oublier. Materia circorporum. Ceux qui font du latin, ils essaient de comprendre ce que c'est que la materia circorporum, c'est-à-dire la matière auprès de quoi nous considérons l'objet. C'est la réalité connue. La réalité connue, c'est l'objet matériel. Mais je la regarde sous tel ou tel aspect. Oui. Alors, je la regarde sous tel ou tel aspect, c'est la ratio formalis objecti. C'est ça qui me permet de distinguer les sciences et les parties de la philosophie les unes des autres. Et de temps en temps, je dois me poser la question, tâter le pouls. Ça, c'est l'aspect critique. Qu'est-ce que... Et c'est la question posée, c'est pour ça que je suis obligé de prendre ce point de vue-là pour répondre à cette question. La passion considérée sous le point de vue de la philosophie du vivant. Qu'est-ce que c'est? C'est une opération vitale, particulière, qui est une opération vitale affective, c'est pas une connaissance. La passion ne connaît pas parce qu'elle est aveugle. Hein? Alors, la passion ne connaît pas, elle est aveugle. Elle a un bandeau sur les yeux et elle fonce comme un chien, comme un cheval au galop. Tu vois, c'est ça le problème de la passion. Ça fonce. Ça ne serait pas une passion. On ralentit. Hein? Ça peut être une passion aussi, on ralentit. Là, ça peut être la passion de tristesse. Là, quand un cheval est triste, il manque d'avoine. Parfois c'est facile, on lui donne de l'avoine, alors ça pique, on ne rire pas. Mais quand il est triste, hein, triste. Là, s'il suffisait de mettre une portion d'avoine tous les matins, n'est-ce pas, pour donner un dynamisme merveilleux à toute la communauté, il y aurait une portion d'avoine tous les matins, non, c'est merveilleux, pour donner un peu, c'est autrement une triste. Alors on est lourd. C'est vrai, il y a une tristesse qui alourdit. La tristesse. Il y a une passion qui alourdit. Des passions qui mettent un poids et qui nous empêchent. Donc, au point de vue de la philosophie du vivant, qu'est-ce que c'est que la passion? Opération vitale. Opération vitale affective, sensible. Tendance vers le bien sensible qui m'attire, c'est l'amour. Mais c'est aussi la haine. Cette répulsion profonde que j'ai et que je peux avoir, la haine, passion, en soi n'est pas mauvaise. Faisons attention. Il y a une capacité de haine en nous qu'il faut garder, soigneusement. Vous gardez cette capacité de haine en nous qui est passionnelle. Et cette capacité de haine en nous qui est passionnelle, c'est justement qu'en face du mal, je veux à tout prix supprimer ce mal. J'en ai de la haine. Avoir de la haine à l'égard du mal, c'est bon. C'est un signe de vitalité. Celui qui n'a pas de haine vis-à-vis du mal, mais il lui manque un peu de vitalité. Vous savez, c'est la vieille tante qui trouve tout très bien. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. On n'a jamais vécu quelque chose aussi beau, aussi merveilleux, comme le monde est beau, pas aller jusqu'à la lune. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. On n'a jamais été si vite dans l'humanité. Voyez ça, maintenant, on peut. Vous voyez, tout alors est dans le même sac. Alors, il n'y a plus de distinction du bien et du mal. Alors, il n'y a plus cette espèce d'attitude foncière, on a de la haine. La haine passionnelle hein, qui peut devenir une haine volontaire alors qu'il devient dangereuse. La haine volontaire, quand elle confond le mal et la personne source du mal, devient terrible. Je n'ai pas le droit d'avoir de la haine vis-à-vis d'une personne humaine. Je n'ai pas le droit. J'ai le droit d'avoir de la haine vis-à-vis de quelque chose qui me fait du mal. Quelque chose qui me fait du mal, oui, j'ai le droit d'avoir cette haine. J'ai le droit d'avoir cette espèce d'attitude d'opposition violente vis-à-vis du mal. Le mal, je le rejette. Le mal, je le fuis. Et quand le mal est présent, il m'accable. Et je suis triste. Et donc, la passion est bien un élan, mais la passion peut être aussi un frein. Il peut être aussi ce recul foncier qui est en moi. Parce que la passion est un élan vis-à-vis d'un bien sensible, mais elle est aussi un frein vis-à-vis du mal sensible, du mal imminent. Donc, vous voyez, définition donc, de la passion au point de vue philosophie du vivant. Opération vitale, affective, du côté sensible. Et je vois qu'il y a des 11 modalités. Il faut le savoir par cœur, hein. Les 11 modalités de la passion. Très important de comprendre ça. Les 11 modalités, les 11 manières d'aimer. Puisque même quand j'ai de la haine, j'aime. C'est merveilleux. Quand j'ai de la haine, j'aime. C'est pour ça que la haine est pour le rêve. La haine passionnelle. Hein. Parce que c'est une manière encore d'aimer. Vous savez, quand on donne une claque à quelqu'un, je t'aime. Tu m'agaces prodigieusement, alors je t'aime, alors je te donne une bonne claque. Voyez, c'est une manière d'aimer, évidemment, assez particulière, pour pas que ça soit trop souvent, mais c'est une manière d'aimer. Et les 11 passions sont les 11 modalités de l'amour. Ce serait très important d'écouter ça. Très intéressant, les 11 modalités de l'amour. Les 11 modalités de s'approcher du bien, sensible. Comme le bien sensible n'est jamais total, il implique toujours quelque chose qui est une limite. Bon. Alors voilà au point de vue philosophie du vivant. Qu'est-ce qu'on me demande encore au point de vue métaphysique? Qu'est-ce que c'est que la passion au point de vue métaphysique? La passion au point de vue métaphysique est une opération vitale. Qu'est-ce que c'est qu'une opération au point de vue métaphysique? C'est une modalité de l'âme. Une modalité de l'acte, c'est une manière d'être en acte. C'est vrai, c'est une manière d'être en acte. Pour le chien, d'être en colère, c'est peut-être le sommet du chien. C'est l'entelekeia du chien. Oui, quand le chien est en colère, c'est vrai, c'est beau un chien en colère. Hein. Qu'il y ait une grille entre nous et le chien, tu vois. Mais c'est beau hein, un chien en colère. C'est peut-être là où il est le plus lui-même. C'est possible. Ça ne donnerait pas du tout, si vous Et si vous pouviez comprendre ce que c'est que la nature du chien, vous verrez que le chien, c'est peut-être quand il est en colère qu'il est le plus lui-même. Entelekeia. La colère est une passion qui actue le vivant et qui met le vivant dans un sommet quand il s'agit de ces bêtes qui sont particulièrement colériques. Et le chien est particulièrement colérique, un chien de défense. Hein. Parce que le petit chien, alors là, c'est pas du tout ça. L'impôt marche sur sa patte, il pleure, il se prend en colère. C'est tout à fait différent. Hein. Tandis que le vrai chien se met en colère, et alors à ce moment-là, c'est beau, c'est grand. Il y a quelque chose de beau. Il y a donc entelekeia, c'est l'entelekeia, la modalité de l'acte. Ça fait partie d'une des modalités de l'acte. Hein. Quatrième modalité de l'acte. Vous prenez les modalités que nous avons dit. L'opération vitale est une manière d'être en acte. Et ça peut être, pour certains vivants, leur sommet. Ils ne peuvent pas aller plus loin que d'être en colère. Ne leur demandez pas plus. Au chien, demandez-lui d'être en colère. Un chien de défense, c'est ce que vous lui demandez. Bon, elle est telle et telle. Au point de vue logique, c'est-à-dire au point de vue des catégories. Ah, les catégories, ce n'est pas la logique, hein, attention. Corrigeons ça tout de suite. Ne dites jamais que les catégories, c'est la logique. Là, il faut dire que les catégories, c'est une propédeutique antérieure à la philosophie, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas la logique, les catégories. Donc, les catégories. Au niveau des catégories, qu'est-ce que c'est que la passion ? La passion se distingue de l'action. Passion et action distinguent le mouvement. Donc c'est une manière de regarder le mouvement. Tout mouvement implique une passion et une action. Donc au point de vue des catégories, qu'est-ce que c'est que la passion ? C'est tout simplement le corrélatif de l'action. Il n'y a passion que s'il y a quelqu'un qui agit sur vous. Et ça c'est vrai. Regardez le chien qui est en colère. Le chien, c'est particulièrement éloquent, n'est-ce pas ? Alors, quand prenez le chien qui est en colère. Pour que le chien soit en colère, il faut quelqu'un qui l'ait motivé. Hein ? Il faut quelqu'un qui l'ait motivé. Il faut que vous l'ayez un peu excité. C'est-à-dire que vous soyez approché un tout petit peu trop la barricade. Alors, il se met en colère. Il a l'impression que vous voulez défoncer la porte. Alors, il se met en colère. Donc, il y a un élément actif. Il y a l'action qui suscite la passion. Dans toute passion, il y a un élément actif. La passion amour, il y a le bien. Le bien est action. Il est l'action qui agit. Il est ce qui suscite. Donc, au niveau des catégories, la passion est corrélative à l'action. Et c'est une division du mouvement. Tout mouvement, tout devenir implique action et passion. Voilà, au niveau catégorie. Oui, c'est très très différent comme manière de regarder. Mais la passion peut se voir de toutes les manières. Au niveau moral, philosophie, éthique. Philosophie, éthique, qu'est-ce que c'est que la passion ? La passion, c'est l'appétit inférieur par rapport à la volonté. La passion demande d'être éduqué. La passion demande d'être dépassé par le volontaire. C'est le volontaire qui transforme l'état passionnel en faisant que la passion devient humaine. Vos états passionnels ne sont pas toujours humains. Quelquefois, vous êtes digne du chien. Vous n'êtes pas digne d'un homme dans vos colères. Hein? Pas ici, mais à l'extérieur. Hein? Vous voyez bien les colères. Les colères font que, de fait, vous êtes de temps en temps en référence avec le chien. Vous défendez votre beefsteak. Et votre beefsteak peut être n'importe quoi, vous comprenez bien. Parce que le beefsteak humain est beaucoup plus étendu que le beefsteak de l'animal et du chien. Alors, vous défendez et vous mettez en colère parce que vous croyez qu'il y a un agresseur. Il y a un agresseur, oui ? Action. Il y a quelqu'un qui vient vous agresser. Alors, vous mettez en colère. Alors, au point de vue philosophique, la passion est toujours infra-humaine. Ça, vous le dites en philosophie éthique, vous ne le dites pas en philosophie du vivant. En philosophie du vivant, vous regardez ce qu'il y a de grand dans la passion. Vous regardez que la passion est une activité vitale et qu'elle traduit le vivant à un niveau proprement humain, à un niveau proprement de vie. Tandis que dès que vous placez à un échelon supérieur philosophie éthique, vous voyez que la passion, ben oui, c'est un état inférieur qui demande d'être transformé par le bon Dieu, assumé par le bon Dieu. La passion, je ne peux pas me livrer entièrement à mes états passionnels au niveau éthique. De temps en temps, le vivant n'est pas éthique. Vous n'acceptez pas d'être entièrement saisi par l'aspect volontaire. Donc, au niveau éthique, la passion est une matière à éduquer. Il faut transformer la passion pour qu'elle devienne quelque chose de bon. Au niveau psychologique, là-bas, je ne fais pas un bouquin de psychologie ici, regardez les définitions des passions au niveau psychologique. Qu'est-ce que c'est ? La passion au niveau psychologique. La passion au niveau psychologique, c'est le concupiscible et l'irascible. Vous m'avez dit qu'une concupiscible et l'irascible, c'est une manière particulière d'être motivé. C'est une manière particulière de réagir en face de certains motifs qui vous saisissent. On regarde le conditionnement de la passion. C'est le conditionnement de la passion. Vous ne regardez pas, vous n'analysez plus la passion. Au point de vue de philosophie du vivant, vous analysez cette opération vitale. Vous voyez que cette opération vitale a 11 manières d'exister. Tandis qu'au niveau psychologique, vous ne regardez que le comportement passionnel. Le comportement, le conditionnement particulier de celui qui est saisi par la passion. Voilà les différentes modalités. Vous voyez ? Là, autrement dit, la passion s'étudie. Philosophie du vivant, métaphysique, catégorie, philosophie éthique, psychologique. Vous regardez toujours la même réalité, mais sous des modalités différentes. En philosophie du vivant, vous regardez le caractère spécifique de cette opération vitale. Et pour avoir le caractère spécifique des opérations vitales, vous regardez son objet particulier. Ce qui est saisi par la passion, bien c'est le bien sensible. Le bien sensible, quand il s'agit du concupiscible, le bien sensible difficile à atteindre quand il s'agit de l'irascible. Jamais l'oublier, c'est le bien difficile, l'ardu. La colère veut saisir un bien difficile. Et c'est pour ça que vous montrez les dents. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du concupiscible, vous ne montrez pas les dents. Il n'y a plus de dents. Il n'y a plus de dents de lait. C'est tout à fait différent. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'irascible, c'est les dents qui veulent saisir la chose. Alors là, c'est bien sensible. Quand il s'agit au point de vue métaphysique, c'est au point de vue de l'être. Quatrième modalité de l'art. Quatrième. Oui. Quatrième modalité. C'est bon, la passion, au point de vue de l'être. Quatrième modalité au point de vue de l'acte. Avant, il y a le vrai, il y a le bien, il y a l'essai. Donc vous êtes au quatrième étage, sous sol. Mais c'est quand même une modalité de l'acte, entelekeia. Et pour certains êtres, comme les animaux, la passion peut être ce qu'il y a de plus grand. Je crois qu'on peut dire que pour l'animal, la passion, c'est ce qu'il manifeste le plus. Le pan qui fait la roue. C'est un état passionnel quand le pan fait la roue. L'état passionnel de celui qui se manifeste dans toute sa splendeur. Et quand un homme fait la roue, il est à un état inférieur. Vous comprenez, il est à un état inférieur. Parce que c'est, pour lui, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. Alors, au niveau catégorie, c'est l'analyse, passion et action. Et je vois que la passion ne peut jamais se comprendre en dehors de l'action. Au niveau éthique, la passion est subordonnée à l'acte volontaire. Et au niveau psychologique, la passion est regardée dans son comportement. ça, c'est l'étude de la passion. Vous habituez à avoir diverses possibilités de regard. C'est très important parce que c'est ça l'intelligence. Quand vous n'avez qu'un seul regard, vous êtes têtu. Vous avez des œillères. Et vous êtes incapable alors de regarder vraiment la réalité. La passion peut s'étudier donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 regards sur la passion. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne crois pas qu'on pourrait dire qu'il y en a d'autres. On pourrait regarder la passion au niveau du fat chéré. Est-ce que la passion peut être étudiée au niveau du fat chéré ? Au niveau de la philosophie du faire, est-ce que la passion intervient là, au niveau de la philosophie du faire? Pas directement, vous voyez. Un artiste est toujours passionné, mais ce n'est pas la passion qui fait l'artiste. C'est une condition essentielle à l'artiste. Un artiste qui manque de passion, vous verrez, quand on aura le plaisir de recevoir un artiste ici, vous verrez combien il est passionné. Et c'est beau de voir la passion d'un artiste. Un véritable artiste, un homme qui joue le drame, et il est passionné. Mais ce n'est pas, voyez, le paon qui fait la roue, très différent. Ce n'est pas le chien qui crie, c'est très différent. C'est l'intelligence dans la passion. Alors, voyez, c'est là où on pourrait mettre un regard différent sur la philosophie de l'art. Qu'est-ce que c'est que la passion de la philosophie de l'art? C'est rendre intelligible l'état passionnel. Et donc, c'est mettre la gloire, glorifier la passion, le dramaturge, l'homme qui joue un drame, glorifie la passion, il montre toute la grandeur de la passion. Il montre la haine noire, il montre avec toute sa force, toute la puissance qu'il y a dans la haine noire. C'est la philosophie de l'art. On se sert de la passion comme une matière privilégiée. On se sert de la passion comme une matière privilégiée pour montrer comment, à travers la passion, l'homme se manifeste. L'homme peut s'épanouir. Alors, pourriez-vous nous situer, comme promis, la psychologie par rapport à la philosophie du vivant, la psychanalyse par rapport à la philosophie du vivant? Eh bien, vous le voyez ici. Donc c'est promis, c'est fait. Psychologie. La psychologie par rapport à la philosophie du vivant, c'est non pas étudier la passion comme une opération vitale, dont je cherche le caractère spécifique en analysant ce que cette passion et en voyant les diverses modalités de la passion. Donc je situe la passion comme un moment de ma vie. La passion exprime quelque chose de ma vie. Alors j'exprime cette modalité particulière que représente la passion. Ce n'est pas la vie spirituelle, c'est la vie sensible et c'est la vie affective. Mais c'est quelque chose de ma vie. Les 11 modalités. Oui, alors, anarchique, hein, c'est ça qui est très beau. C'est pour ça que c'est 11 et c'est pas 12. Pour bien montrer le côté anarchique. Parce que la passion. Devenant, voyez, si je regardais les passions, je verrais qu'on ne peut pas les ordonner. J'aurais la passion amour, qui est fondamentale, et la passion colère, qui est ultime. La colère est une passion ultime, feu d'artifice. Il n'y a plus rien après la colère. C'est pour ça que c'est désespérant. Parce qu'il n'y a plus rien. Alors, il y a la haine. Donc, on peut dire que la haine aussi est quelque chose d'utile. C'est très vrai. La haine est quelque chose d'utile dans mon but ici. L'irascible va dépasser la haine par la colère. C'est pour ça que les psychanalystes, quand ils voient des colères dans leurs patients, disent qu'il y a encore possibilité de les sauver. Dites-vous bien ça. Chaque fois que vous mettez en colère, il y a encore possibilité de vous sauver. Tandis que quand vous êtes dans la haine noire et dans la tristesse, on ne sait plus comment vous prendre. Tandis que quand il y a la colère, il y a quelque chose qui demeure. C'est C'est que c'est terrible de tuer les racines dans un être. C'est ce qu'il y a de plus effrayant, de tuer les racines, parce qu'on tue le ressort fondamental par lequel on peut rebondir. C'est très significatif, hein, chez les psychanalystes, ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. C'est l'inverse, d'une certaine manière, de l'éducation. Ça m'a toujours beaucoup frappé quand je vois Jean Vanier et puis les psychanalystes. C'est diamétralement opposé. Jean Vanier, c'est le point de vue de la douceur, le point de vue de recevoir les coups sans rien dire, accepter, pardonner, tout ça. Non, c'est là. On voit très très bien. Et les psychanalystes, au contraire, ils disent « Ah, la colère, quand il y a la colère, il y a encore une matière possible à éduquer. » C'est très très curieux, c'est intéressant à voir ça, parce que c'est dans l'ordre psychique, hein, des deux contraires, en quelque sorte. Jean Vanier est beaucoup plus proche de l'aspect évangélique. Il ne faut pas moraliser la passion. Hein. Et c'est le danger de temps en temps. Si vous moralisez la passion, ça devient... Justement, vous ne pouvez plus rien faire. Mais vous avez l'attitude de passivité absolue, mais une passivité psychologique qui n'est plus une passivité divine. C'est le danger, ça c'est sûr. Il ne faut pas moraliser la passion. Mais il ne faut pas non plus regarder la passion, vous voyez, pour elle-même et uniquement pour elle-même. Alors, au niveau psychologique, hein, au niveau psychologique, vous regardez le point de vue du comportement vital. La manière particulière dont un être se comporte au niveau vital, c'est le comportement que vous regardez, et uniquement le comportement. C'est pour ça que le psychologue n'étudie pas l'aspect objectif. L'analyse du psychologue est une analyse au niveau de l'exercice de la vie, de l'exercice du comportement, de voir ce qui est antérieur et ce qui est postérieur. Il étudie des lois psychologiques. Et les lois psychologiques, c'est uniquement étudier, de voir comment, si vous posez telle colère, il y aura tel résultat. Oui. C'est du côté de l'exercice. Vous ne cherchez pas à connaître ce que c'est que la colère, mais vous cherchez les résultats de la colère. Vous cherchez les résultats de telle opération, et vous cherchez comment vous pouvez adoucir, diminuer, en voyant que de fait, la colère est toujours liée à un état biologique, toujours. Alors vous pouvez agir sur le comportement biologique. Et c'est du reste, c'est ce qu'on fait, au point de vue psychiatre et au point de vue psychanalytique. Vous essayez de voir que, de fait, en variant l'équilibre biologique de quelqu'un, vous l'aiderez à avoir un comportement plus pacifique. Un comportement plus doux, un comportement moins irascible. Tandis qu'au contraire, si vous mettez d'autres éléments et d'autres ingrédients, vous allez augmenter l'irascibilité de quelqu'un. Donc c'est le conditionnement et le conditionnement et les conditions dans lesquelles je peux regarder le point de vue passionnel. Le psychanalyste, lui, regarde les refoulements. La ratio formalis objecti du psychanalyste. Quelle est la raison formelle qui commande le psychanalyste? C'est pas le psychologue. C'est de regarder les refoulements. Il étudie les refoulements. Ce qu'il veut connaître, c'est l'inconscient. Et découvrir l'inconscient de quelqu'un. De mettre en pleine lumière l'inconscient. Et c'est là le point de vue très difficile à comprendre, le point de vue psychanalytique, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de science, contrairement à ce qu'ils disent. C'est un art. Et on comprend très bien que c'est un art. Vous cherchez la matière à redresser. Ça, c'est de l'art. Un art de rééducation. Le psychanalyste, quand il est un vrai psychanalyste et un bon psychanalyste, il y en a. C'est une rééducation qu'ils font. Et donc, ils cherchent la matière qu'il faut saisir à rééduquer. Il faut connaître cette matière. Mais il n'y a pas de connaissance scientifique, puisque pratiquement l'inconscient, vous savez bien, c'est impossible à définir. Je me souviens, et je me souviendrai toute ma vie, cette soirée passé avec des psychanalystes à Paris, où j'aurais posé béatement, parce qu'il faut toujours être naïf comme Socrate, qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? Puisque vous dites que votre ratio formalis objecti, et je n'aurais pas dit ça, hein, la ratio formalis objecti de la psychanalyse freudienne, c'est l'inconscient, il faut donc savoir qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Or, il est impossible à un psychanalyste de dire ce que c'est que l'inconscient. On le sait d'avance. Donc il faut le savoir pour leur mettre là l'objet devant. L'inconscient, ça ne se définit pas. Parce que si vous définissiez l'inconscient, vous le définiriez positivement par la conscience. C'est ce que vous faites spontanément, vous, en disant l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Inconscient. Donc ce qui n'est pas conscient. Donc je définis l'inconscient par le conscient. Eh bien, quand vous dites ça, vous êtes en dehors de la psychanalyse. Vous êtes dans le bon sens. Vous êtes en dehors de la psychanalyse, parce que la psychanalyse est en dessous du niveau de la mer. C'est bien évident, et je comprends très bien. C'est essayer de saisir quelque chose qui ne se définit pas par la conscience. L'inconscient, pour un psychanalyste, c'est quelque chose de positif. C'est une force cachée. Alors si c'est une force cachée, c'est quelque chose qu'on doit découvrir. Quelque chose qui s'est produit en nous progressivement et qu'on doit découvrir, mais qui est incapable d'être défini. Alors on montre les effets. Et c'est toujours ce qu'on fait. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est que l'inconscient, ah, regardez les actes manqués, regardez les rêves, regardez tout. Par là, vous avez les effets de l'inconscient. Mais vous n'avez. Et le fait que quelqu'un, par exemple, arrive à un moment donné, une rupture profonde avec toute sa vie. Alors là, il y a l'inconscient qui joue. Et l'inconscient est une force. La dynamite. C'est une force cachée. Et c'est vite tout d'un coup, ça éclate. Comme on ne sait pas la maîtriser, par définition, ça ne se maîtrise pas, l'inconscient. Alors ça éclate. C'est donc de l'imaginaire. L'inconscient, c'est de l'imaginaire. C'est un être imaginaire que nous portons en nous. C'est d'ordre imaginaire, quelque chose qui s'est accumulé en nous en fonction d'un refoulement. Pas d'inconscient sans refoulement. Il y a un refoulement. Il y a un appétit sensible, un appétit instinctif qui a été refoulé. Dès votre jeune âge, vous avez été refoulé. C'est pour ça que le sevrage joue un rôle si important. Parce que c'est le premier refoulement, vous comprenez ? Un enfant qui n'a pas trouvé auprès de sa mère une source de gratuité du bien sensible et qui a trouvé auprès de sa mère quelqu'un qui l'écartait plus tôt, alors là vous êtes en face du refoulement le plus radical qui soit. Parce que je crois que le bien sensible humain implique toujours une gratuité. Et quand de fait on n'a pas trouvé auprès de sa mère cette source de gratuité, pour des tas de raisons, je n'accuse pas la mère, hein. Pour des tas de raisons, la mère était trop occupée, la mère devait remplacer le père parce que le père était d'une mollesse extraordinaire et que le père était toujours absent et que le père ne prenait aucune responsabilité. Alors la mère a dû prendre des responsabilités et à ce moment-là, elle ne pouvait plus être une source de gratuité. Et l'enfant ne trouvait plus auprès de sa mère cette source de gratuité parce que la mère n'était pas assez présente. Qu'il faut beaucoup de présence pour la gratuité. Il faut du temps pour la gratuité. Quand vous êtes trop limité par le temps, vous ne pouvez plus être une source de gratuité. Je crois, vous voyez, que c'est là le refoulement le plus radical et le plus profond. C'est quand on n'a pas eu suffisamment ce bien sensible donné par la mère gratuitement. Et que la mère est devenue un canal. On a mesuré le lait maternel au biberon. N'est-ce pas ? Et alors à ce moment-là, c'est devenu un canal. Le biberon plus ou moins chaud, le biberon plus ou moins tiède, le biberon plus ou moins épais, plus ou moins, et ainsi de suite. Alors vous avez canalisé. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus de gratuité. C'est très vrai, il n'y a plus de gratuité. C'est très curieux ces choses-là. Et c'est très important. Parce que c'est la première source, c'est de découvrir la gratuité dans le bien sensible. Et quand il y a eu ce refoulement à ce niveau-là, il y a nécessairement un inconscient très très profond qui existe et qui fait qu'on est comme des affamés. Parce qu'on n'a pas eu, au point de départ, la gratuité profonde qu'on cherchait. Et alors on sera tout le temps des êtres affamés qui rechercheront tout le temps leur bien. Et qui seront tout le temps, donc, dans cette espèce d'avidité et d'attitude un peu d'irascible. Hein? Parce que c'est, on veut se venger. Vous voyez, on voit comment l'heureux... Et c'est comme ça qu'on devrait étudier le point de vue de l'inconscient. C'est tous les refoulements possibles. Et par les refoulements possibles, vous pouvez saisir ce qu'il y a de positif dans l'inconscient. Vous voyez qu'on est très très loin de l'analyse des passions. Puisque ça se fait par le refoulement. On étudie la passion par l'imaginaire. Et on étudie les lois de la passion par le point de vue du refoulement, du concupiscible, puisque c'est toujours du côté du concupiscible qu'il y a le refoulement. Je ne crois pas qu'il y ait de refoulement du côté de l'irascible. Ce serait étudié, posez-vous la question. Y a-t-il un refoulement du côté de l'irascible? Non, puisque l'irascible est là, toujours, pour compenser le concupiscible qui ne s'est pas donné assez. Alors on veut se venger, on se met en colère. Les premières colères que vous avez eues, souvenez-vous bien, les premières colères que vous avez eues, quand vous avez crié, que vous avez fait tout le possible, même quelquefois d'aller faire du drame, ben l'enfant fait du drame, il fait comme s'il valait mourir, vous vous intéressez à lui. Venez, c'est bien inconsciemment il le fait. Parce qu'il faut qu'on s'occupe de lui, il faut qu'on se penche de lui. On s'est occupé d'autre chose pendant un certain temps, et on l'a oublié. Alors il va montrer qu'il va mourir. Ça peut aller jusque-là, ça peut aller à la simulation. L'inconscient conduit à la simulation. On simule des tas d'états tragiques, dramatiques. Alors, c'est le point de vue du concupiscible, le refoulement du concupiscible, qui éveille l'irascible. Et c'est pour ça qu'au fond, au point de vue psychanalytique, c'est très très simple une fois qu'on a saisi l'histoire. Chaque fois qu'il y a un refoulement du côté du concupiscible, il y a l'irascible qui veut se venger. Tout le temps. Et l'irascible, alors, empêche, évidemment, d'être parfaitement détendu. Parce que l'irascible tend. Et alors, ça tend tellement fort qu'à un moment donné, ça craque. Ça, c'est sûr, on a tous fait cette petite expérience. C'est toujours la loi du concupiscible et l'irascible. On n'étudie pas les 11 passions, alors qu'on devrait. On devrait étudier les 6 possibilités de refoulement. Les 6 possibilités de refoulement, il y en a 6. Alors on ne les étudie pas du tout. On fait ça très en gros. La psychanalyse, c'est très grossier. Il ne faut pas dire ça aux psychanalystes, hein. Mais c'est très grossier parce que de fait, on étudie simplement le point de vue du concupiscible, d'irascible, du côté de leur exercice, pas du côté de leur spécificité. Et on aurait une possibilité, ça ce serait très intéressant, d'illuminer la psychanalyse par une philosophie du vivant. Et alors on étudierait de façon beaucoup plus profonde les diverses possibilités de refoulement. Et on étudierait par le fait même les réactions de l'irascible par rapport à ces refoulements divers. Puisque l'irascible est toujours au service du concupiscible. Vous voyez, c'est simplement pour vous situer la différence entre le point de vue de la philosophie du vivant. Alors je plaide la cause de la philosophie du vivant, hein, c'est bien évident. Je suis philosophe, donc je montre que le philosophe va beaucoup plus loin que le psychologue et que le psychanalyste. La psychanalyse présuppose la psychologie. Et la psychologie devrait présupposer une philosophie du vivant. Rien n'est à rejeter, c'est ce qu'il faut se dire, rien n'est à rejeter. Il existe des refoulements, on ne peut pas nier, il existe des refoulements. Mais le refoulement ne peut se comprendre qu'en fonction de la passion. Et la passion ne peut se comprendre qu'en fonction de la philosophie du vivant. Et donc, pour comprendre parfaitement la psychanalyse, il faut revenir à la philosophie du vivant. Et c'est par la philosophie du vivant que nous comprenons ce que représente le point de vue du refoulement au niveau de la passion du concupiscible.